Lizzie présente Diana racontée par elle-même d'Andrew Morton, lu par Philippe Allard et Cathy Minjong. Prologue. Même 25 ans après, on a du mal à y croire. Les producteurs de Hollywood refuseraient ce scénario à dormir debout. Une ravissante princesse réduite au désespoir, un écrivain inconnu, un intermédiaire amateur, et un livre qui allait changer à jamais la vie de la princesse. En 1991, la princesse Diana frisait la trentaine. Elle avait passé sa vie d'adulte sous les feux des projecteurs. Au moment de son mariage avec le prince Charles en 1981, l'archevêque de Canterbury avait parlé d'un « conte de fées ». Dans l'imagination populaire, le couple princier, comblé par la naissance de deux garçons, William et Harry, était la face glamour et bienveillante de la maison Windsor. L'idée même qu'après 10 ans leur mariage battait de l'aile était inconcevable, même pour les tabloïdes jamais à court d'imagination. Commentant une tournée du couple au Brésil cette année-là, le Sunday Mirror les décrivait comme présentant un front uni au monde, tandis que leur complicité faisait vibrer d'excitation les rangs serrés des médias. Peu après, j'appris la vérité toute nue. Le lieu improbable de ces révélations extraordinaires fut un café ouvrier de Ryslip, une banlieue anonyme de Londres. Pendant que les travailleurs attaquaient bruyamment leurs œufs au bacon et haricots blancs à la tomate, je coiffais des écouteurs, allumais un magnéto cabossé et écoutais avec un étonnement croissant la voix parfaitement identifiable de la princesse qui racontait son histoire tragique dans un monologue ininterrompu. J'avais l'impression d'être transporté dans un univers parallèle, tandis que la princesse parlait de son malheur, de son sentiment de trahison, de ses tentatives de suicide, puis de deux choses dont je n'avais encore jamais entendu parler, un trouble alimentaire, la boulimie, et une certaine Camilla. Quand je quittais le café, j'étais sonné par ce que je venais d'entendre. C'était comme si on m'avait permis d'entrer dans un club clandestin qui cachait un secret dangereux. En rentrant chez moi ce soir-là, je veillais à m'écarter prudemment du bord du quai du métro, car je commençais à ressentir la paranoïa qui imprégnait le film « Les hommes du président » sur Richard Nixon, le cambriolage du Watergate et l'enquête de deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Depuis près de 10 ans, j'écrivais sur les membres de la famille royale. Je faisais partie du cirque médiatique, rapportant leur action sur toute la surface du globe. C'était, au dire des paparazzi, ce qu'on pouvait faire de plus drôle sans se déshabiller. J'avais eu maintes fois l'occasion de rencontrer le prince Charles et la princesse Diana lors des cocktails réservés à la presse au début de chaque tournée. Les conversations avec la princesse étaient légères, vives et banales, généralement à propos de mes cravates voyantes. Cependant, un journaliste spécialiste de la famille royale ne passe pas sa vie à faire la fiesta. Derrière la scène, il y a un travail sérieux. Il me fallait cultiver mes contacts à l'intérieur des palais de Buckingham et de Kensington, dans lesquels le couple princier occupait les appartements 8 et 9 afin de découvrir la vie des grands de ce monde une fois tombé le masque. Après avoir écrit des livres sur leur vie dans divers palais, sur la fortune de la famille royale et une biographie de la duchesse d'York, Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, j'en étais venu à connaître assez bien un certain nombre d'amis et de membres du personnel et je pensais me faire une idée plutôt juste de ce qui se passait derrière les grilles en fer forgé du palais. Or, je ne m'étais douté de rien. Mon premier éclair de vérité, je le dois à l'homme responsable du magnétophone. C'est en 1986 que je fis la connaissance du docteur James Scholthurst lors d'une des habituelles visites de la famille royale. Il escortait alors Diana, venue inaugurer un nouveau scanner dans son service de radiologie à l'hôpital St. Thomas, dans le centre de Londres. Pendant le thé qui suivit, je l'interrogeai sur la visite de la princesse. Il devint vite clair que Coldthirst, ancien Deaton et fils d'un baronnet dont la famille avait possédé le château de Blayney en Irlande pendant plus d'un siècle, connaissait la princesse depuis des années. Il pouvait être, me dis-je, un bon contact. Nous sommes devenus amis, faisant ensemble des parties de squash sur les cours de St. Thomas avant de nous installer devant de plantureux déjeuners au restaurant italien du coin. Bavard intarissable, James adorait parler de tout, sauf de la princesse. Certes, il la connaissait assez bien pour aller la voir quand elle était célibataire et habitait avec des amis dans un appartement de Colhane Court à Kensington, et l'écoutait alors se morfondre pour le prince Charles. Ils avaient même passé un week-end de ski en France avec des amis. Dès qu'elle devint princesse de Galles, les contacts faciles qui avaient caractérisé sa vie furent oubliés. Diana parlait toujours avec nostalgie de sa cour de Colhane, mais au passé. Ce n'est qu'après la visite de la princesse à St. Thomas que Coldthirst et la princesse renouèrent. Ils se rencontraient de temps à autre pour déjeuner. Peu à peu, il fut admis dans son cénacle très privé et commença à entrevoir ce qu'était sa vie réelle. Son mariage était un fiasco et son mari entretenait une liaison avec Camilla Parker Bowles, la femme d'un officier ami du prince. Andrew Parker Bowles, qui portait le curieux titre de Silver Stick, bâton d'argent, était l'adjoint du commandant de la prestigieuse cavalerie de la garde royale. Camilla, qui habitait à proximité de Highgrove, la résidence de campagne du couple princier, était si proche de Charles qu'elle jouait régulièrement les hôtesses lors de dîners et de réceptions organisées chez lui, dans le Gloucestershire, pour les amis de ce dernier. Même si Coldthirst avait l'impression qu'on lui dévoilait un secret, il n'était pas le seul à être dans la confidence. Depuis le garde du corps qui accompagnait le prince dans ses sorties nocturnes chez Camilla à Middlewick House, dans le Wiltshire, sud-ouest de l'Angleterre, jusqu'au majordome et au chef de cuisine qui avait l'ordre de préparer et de servir un souper, tous savaient que le prince ne mangerait pas chez lui puisqu'il était allé voir sa maîtresse. Et le valet cochait des émissions sur le programme télévisé de l'hebdomadaire Radio Times de la BBC pour faire croire que le prince avait tranquillement passé la soirée à la maison. Bref, tous ceux qui travaillaient pour le couple princier étaient amenés, souvent malgré eux, à se prêter à cette mascarade. Son valet, Ken Stronach, tomba malade à force de mensonges quotidiens, tandis que le chargé de communication, Dickie Arbiter, se trouva dans une situation impossible à devoir défendre devant le monde entier l'image d'une famille unie, tandis qu'il fermait les yeux sur le gouffre qui se creusait dans le couple. Quand le prince Charles se fractura le bras au cours d'un match de polo en juin 1990 et fut transporté à l'hôpital de Cirencester, son personnel guetta anxieusement les radios de la police qui rendaient compte du voyage de la princesse de Galles sur le trajet de Londres à l'hôpital. Il savait pertinemment qu'il devrait faire sortir sa précédente visiteuse, Camilla Parker Bowles, avant l'arrivée de Diana. Ceux qui étaient au courant ne doutaient pas que ce jeu de dupes finirait tôt ou tard par être connu. Chaque jour, ils se demandaient combien de temps pourrait durer la conspiration destinée à se jouer de la future reine. Indéfiniment, peut-être. Ou jusqu'à ce que la princesse soit rendue folle par ceux en qui elle plaçait sa confiance et son estime et qui lui répétaient à l'envi que Camilla n'était qu'une amie. Elle la soupçonnait à tort, affirmait-il, c'était, comme la reine-mère le disait à son entourage, les élucubrations d'une petite sotte. Diana s'expliqua des années plus tard dans la fameuse interview télévisée qu'elle accorda à l'émission Panorama sur la BBC. « Les amis du côté de mon mari indiquaient que j'étais de nouveau instable, malade, et qu'on devrait me placer dans un établissement d'un certain type pour que j'aille mieux. » Je leur faisais presque honte.